21h à Bamako, à Kidal et à Ouagadougou, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Les groupes armés du Nord Mali réunis à Ouagadougou ont trouvé une position commune avant la reprise des négociations avec les autorités maliennes. La fuite d'Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger, continue de diviser l'opinion et la classe politique.
Il n'a pas confiance au système judiciaire. Et par le passé, et il est habitué, à chaque fois qu'il a un problème devant le juge, il est habitué à traverser la frontière pour se réfugier.
Nous entendrons la réaction de Moussa Askar, directeur du journal L'Événement. Les États-Unis ont annoncé le lancement des premiers essais cliniques d'un vaccin contre l'Ebola. Et enfin, le Mali est candidat au prix Nobel de la paix 2014. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon.
Sarah Diaby. Le Sénégal enregistre son premier cas d'Ebola. Il s'agit donc du cinquième pays d'Afrique de l'Ouest à être touché par l'épidémie qui a fait plus de 1 500 morts. L'étudiant guinéen est entré sur le territoire sénégalais en échappant à la surveillance sanitaire dans son pays. C'est ce que nous explique Eva-Marie Colsec, ministre sénégalaise de la Santé.
C'est le cas d'un jeune étudiant guinéen qui est à l'université à Conakry, qui est venu au Sénégal et qui a omis de dire, si je peux dire, dissimuler le fait qu'il avait été en contact avec des malades d'Ebola. Et donc, il a été pris en charge dans la structure. Mais nous avons eu très rapidement l'information à travers le centre, de suivi en Guinée, qui nous a dit qu'il avait perdu un contact depuis 3 semaines et qu'apparemment ce contact était au Sénégal. Après avoir fait le recoupement, on s'est rendu compte que c'était la personne que nous avions hospitalisée dans l'une de nos structures. Cette personne donc a été isolée. On a continué son traitement. D'ailleurs, cette personne va mieux. Le bilan a été fait à Pasteur et il est revenu positif. Nous menons une riposte par rapport au cas contact parce qu'il faut rechercher toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact, les suivre et dès qu'elles sont malades ou qu'elles ont des signes, les hospitaliser et les prendre en charge.
Et toujours au sujet de l'épidémie d'Ebola, quelques 160 personnes ont été placées sous surveillance à Port-à-Coup. Cette mesure intervient en réaction au décès d'un médecin dans cette ville au sud du Nigeria.
Au Cameroun, un hommage officiel a été rendu à 25 militaires tués au cours d'affrontements entre l'armée et des djihadistes nigériens de Boko Haram. C'est ce que rapporte la radio d'État. La cérémonie présidée par le ministre de la Défense, Edgar Alem Mbengo, rendait également hommage à un soldat tué en Centrafrique.
Le ministre cité par l'AFP a aussi fait savoir que plusieurs dizaines d'islamistes ont été tués ces derniers jours par l'armée camerounaise suite aux tentatives d'incursion de Boko Haram à Fotokol, une ville camerounaise frontalière située en face de Gaboro, localité nigériane contrôlée depuis lundi par les islamistes.
En Afrique du Sud, un Rwandais et 3 Tanzaniens ont été jugés coupables de tentatives d'assassinat en 2010 de l'ex-chef d'état-major du président rwandais Paul Kagame, un attentat politique commandité au Rwanda selon la justice sud-africaine. 6 hommes étaient jugés pour cette tentative d'assassinat du général Nyawaza, âgé de 56 ans, qui vit toujours en exil en Afrique du Sud.
Les prévenus connaîtront leur peine le 10 septembre prochain lors d'une audience distincte comme le la procédure pénale sud-africaine.
Au Rwanda même, l'ancien chef de la garde présidentielle, le colonel Tom Byabangamba, et un général à la retraite, Frank Rusagara, sont accusés de propagation de rumeurs visant à provoquer un soulèvement. Le tribunal militaire de Kigali a par ailleurs renvoyé au 5 septembre l'audience de demande de remise en liberté.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'offensive de l'armée syrienne se poursuit à Damas. Les forces gouvernementales ont pilonné le quartier de Jobar avec une violence inouïe aujourd'hui. C'est ce qu'indique l'AFP, citant des médias officiels, une ONG et des habitants.
Jobar est aux mains des insurgés depuis un an. Au cours de cette offensive débutée hier, un grand nombre de terroristes ont péri, indique une source sécuritaire citée par l'AFP. Leurs repères et des tunnels auraient également été détruits.
Et puis en Irak, plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées par les violences, dont 850 000 durant le seul mois d'août. C'est la fin de ce bulletin d'information, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec le protocole d'accord trouvé par les groupes rebelles du Nord Mali en discussion à Ouagadougou depuis mardi dernier. Ils se sont engagés à avoir une position commune pour la rencontre d'Alger prévue lundi prochain. La correspondance à Ouagadougou de Zoumana Wonogo.
Depuis le déclenchement de la crise au Nord Mali, les groupes politico-militaires y ont poussé comme des champignons. Et ce n'est pas toujours le parfait amour entre eux. Faut-il aller à la table des négociations en Algérie, en mosaïque ou en rang serré? La deuxième option a été retenue et a fait l'objet d'une rencontre de 96 heures sanctionnée par un communiqué final. Suivons les grands traits avec le professeur Ould Sidi Mohamed du MAA, Mouvement des Arabes de l'Azawad.
Les partis ont reconnu la légitimité de la lutte que mène le peuple de l'Azawad Nord-Mali pour jouir d'un statut spécifique conforme à ses réalités géographiques, économiques, sécuritaires, sociales et culturelles. Aussi, les partis sont convenus de l'arrêt des hostilités et toute forme de violence entre tous les fils de l'Azawad Nord-Mali et s'engagent à favoriser un climat de paix et à le consolider.
Pour aboutir à ce communiqué final, que ce fut dur. On écoute Ibrahim Kantao de la Coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Numéro 2, il s'en défend.
Si l'on veut être dans une logique d'une paix durable, d'une entente durable et définitive entre tous les mouvements, il était important qu'on prenne le temps de s'expliquer et de faire en sorte que chacun comprenne le sens du combat et que l'on s'engage définitivement vers une unité d'action. Avec la signature de cette déclaration, qui regroupe tous les mouvements, qui pour la première fois ont accepté de se mettre ensemble, moi je crois que c'est un événement important. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas le réussir.
Cette fois, de cette unité retrouvée des groupes armés que Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad CPA se projette dans les négociations en Algérie.
C'est essentiellement autour de ce qui pourrait être le statut des régions que nous appelons Azawad. C'est de ça que nous allons discuter à Alger. La forme de gouvernance qui va être adaptée et qui va être une réponse à nos spécificités culturelles, sociales, économiques et sécuritaires, c'est de ça que nous allons parler à Alger. Il y a deux principes aujourd'hui qui sont acceptés par les mouvements. Le principe de l'intégrité territoriale du Mali et la laïcité. Ça, c'est un acquis. Maintenant, pour nous, tout le reste est négociable parce que pour nous, la paix n'a pas de prix. Si c'est une large autonomie de l'Azawad qu'il faut pour que cette région connaisse et que ses fils vivent la paix, nous allons le chercher et nous le cherchons.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique, 101.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. L'actualité au Niger maintenant est dominée par la fuite du chef des députés nigériens opposant au président du Burkina Faso suite à l'affaire de trafic présumé de nourrissons en provenance du Nigeria. Le camp de Hama Amadou dénonce avec fracas une utilisation de la justice à but politique par le président Mahamadou Issoufou, qu'il a aidé à accéder au pouvoir en avril 2011. Pour plus de détails, nous avons joint celui qui avait, il y a 10 mois, révélé cette affaire. Il s'agit de Moussa Askar, directeur des réactions de journal L'Événement.
Le Nigérien était désabusé qu'en apprenant par les ondes et à travers certains SMS que le président de l'Assemblée nationale a pris la route d'escampette pour se retrouver au Burkina Faso. Au moment où le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de le mettre à la disposition du juge pour qu'il réponde de ses actes relativement à l'affaire des bébés importés du Nigeria.
Et pourquoi est-ce qu'il a fui? Parce qu'il n'a pas confiance au système judiciaire?
Oui, d'abord, il n'a pas. Il y a cette hypothèse, il n'a pas confiance au système judiciaire. Et par le passé, et il est habitué, à chaque fois qu'il a un problème devant le juge, il est habitué à traverser la frontière pour se réfugier.
Donc ce n'est pas la première fois, hein?
Oui, ce n'est pas la première fois, hein. Il y a eu plusieurs cas et il s'est toujours retrouvé, il a toujours pris la fuite dès qu'il a un problème avec la justice de son pays. Donc ça n'a pas surpris certains. Et il y a bien avant, depuis le début de cette affaire, beaucoup pensaient à ce qu'il quitte clandestinement le pays pour qu'il ne réponde pas de ses actes devant le juge.
Mais revenons sur l'affaire même, de quoi s'agit-il concrètement?
Bon, cette affaire, c'est nous qui l'avons révélé il y a de cela une dizaine de mois. Nous avons reçu une information qu'un policier, un inspecteur de police, dont la femme est monopause, est atteinte de monopause, elle n'allait pas avoir des enfants, elle a pu aller au Nigeria et acquérir des bébés. Nous avons fouillé et nous sommes déplacés dans ce pays-là. Et nous sommes revenus faire des articles pour alerter l'opinion nationale et internationale qu'il y a un vaste trafic de bébés dans ce pays au Nigeria.
En dehors donc du cas de Ama Amadou, qui sont les autres concernés?
Vous avez des directeurs de banque, des hommes de porteurs de tenue, des policiers. Vous avez même aujourd'hui la femme d'un haut commandant de la garde nationale qui a été auditionné par les services compétents. Donc c'est plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce trafic-là, et notamment au Niger, au Bénin où il y a eu des arrestations, et également au Burkina.
Moussa Askar, directeur de la rédaction du journal L'Événement. Nous revenons à la lutte contre le virus Ebola. Les autorités américaines ont annoncé hier le lancement des premiers essais cliniques, c'est-à-dire les premiers essais sur l'homme, d'un vaccin pouvant prévenir cette fièvre hémorragique. Les précisions de Timothée Donangmai.
Ce vaccin expérimental est le fruit d'une collaboration entre l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis et la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les essais cliniques seront, dans un premier temps, limités et viseront à étudier la sécurité d'utilisation du vaccin. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a eu un impact sur les recherches, a révélé le docteur Anthony Fauci, chef de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Nous avons accéléré le calendrier d'expérimentation des vaccins contre l'Ebola que nous étions en train de développer depuis des années. Après une revue rapide du produit et du schéma d'essai clinique par la Food and Drug Administration, nous avons obtenu le feu vert. Selon le Dr Fauci, les essais porteront sur 20 personnes âgées de 18 à 50 ans et se dérouleront au Centre de recherche de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda, près de Washington. Il s'agira notamment de déterminer si le vaccin expérimental provoque chez ces personnes une réponse immunitaire permettant d'en prédire l'efficacité. Les premiers essais sur les animaux ont permis de bien protéger des primates contre l'Ebola, a indiqué le Dr Anthony Fauci.
It is important to know.
Il est important de savoir que le gène d'Ebola contenu dans ce vaccin expérimental ne provoquera pas l'infection chez l'individu sur qui il est injecté. Les volontaires seront divisés en deux groupes pour des essais à faible et forte dose. D'autres essais cliniques suivront en octobre ici aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, au Mali et en Gambie.
Terminons l'émission avec les candidatures pour le prix Nobel de la paix 2014, dont le résultat sera connu le 12 octobre prochain. La candidature du Mali a été déposée par l'Alliance des générations démocratiques du Mali, la GDM. De Bamako, le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
L'Alliance des générations démocratiques s'est basée sur les différentes crises qu'a connues le Mali pour déposer la candidature du peuple malien au prix Nobel de la paix 2014. Dramane Diarra, président de l'AGDM.
Un ensemble de crises dont chaque élément à lui seul pouvait emporter un État, n'importe quel État d'ailleurs. Mais même avec cette conjonction de crise, le Mali a su se tenir debout. Nombre d'observateurs, aussi extérieurs que internes, pariaient seulement sur le fait pour le Mali de sortir de la crise. Mais non, les Maliens ont fait mieux. Nous sommes sortis de la crise, mais nous sommes sortis de la plus belle manière. Et c'est ce qui a encore fasciné le monde entier.
Pour faire connaître cette candidature du peuple malien, l'AGDM va lancer bientôt une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention de tout le peuple malien.
Nous allons très prochainement faire un lancement de la candidature pour que le peuple malien lui-même soit imprégné. Le peuple malien de l'extérieur comme de l'intérieur, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, du centre, que chacun, chacune, chaque Malien soit imprégné que nous sommes individuellement et collectivement candidats au prix Nobel de la paix 2014 et que chacune et chacun s'approprie cette candidature-là.
C'est le 27 février 2014 que la candidature du Mali a été déposée. Les initiateurs ont tout fait pour rencontrer le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Ce fut peine perdue. C'est ce jeudi 28 août qu'ils ont été reçus par le président du Conseil social, économique et culturel du Mali.
C'est pas fou d'avoir voulu prendre la question à bras le corps. Nous avons saisi les institutions de la République, certaines institutions de la République, depuis le 19 mai 2014. Donc il y a déjà plusieurs mois que nous étions dans un mutisme en attendant que ce soit les autorités qui prennent le relais pour ventiler cette candidature-là qui mérite amplement d'être portée à la connaissance de ceux-là pour qui la candidature est portée, mais aussi à la face du monde.
L'Alliance des générations démocratiques du Mali veut compter sur le peuple malien pour mener à bien cette candidature.
Cette candidature permettra à l'interne de recoudre notre tissu social même. Et à l'externe, ça va faire retentir encore l'aura du Mali sur la scène internationale. Le Mali qui a toujours été un exemple. Et cette candidature-là fera que le Mali prouvera encore une fois qu'il est un exemple pour le monde entier.
Il faut signaler que la proclamation du prix Nobel de la paix est prévue pour le 12 octobre prochain. Et déjà, 278 candidatures ont été enregistrées. Le Mali pourra-t-il gagner? Wait and see. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Brian Marcoulier qui était à la technique. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Et nous nous quittons en musique avec Africando et évidemment Amadou Balaké qui nous a quittés il y a quelques jours pour le titre BTC. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.